Question d'Islam par Al-Benshir. Aujourd'hui, c'est la seconde partie consacrée à l'Alcoran, selon l'appellation des auteurs latins, en tout cas qui a prévalu jusqu'au moins au XIXe siècle, et toujours avec le professeur Olivier Hahn. Olivier Hahn, bonjour. Merci vraiment d'être parmi nous, d'avoir accepté de revenir pour nous parler de l'Alcoran. Le sujet était si dense qu'une seule émission n'avait pas suffi. Et donc, dans la foulée, nous sommes pour ce second épisode. Chez les puristes de la langue française, quand il y a second, il n'y a pas de troisième. Mais nous aurions aimé qu'il y eut une troisième partie. La dernière fois, on a parlé globalement de l'écrit coranique, de la révélation, à la fois de Jean de Damas, Saint Jean Damasène, et puis la venue à la fois de l'islam et puis la découverte du texte sacré des musulmans. Aujourd'hui, on poursuivra la chronologie quasiment jusqu'à nos jours et nous parlerons de la réception du Coran en Europe. Voulez-vous, si vous voulez bien, Olivier Hahn, vous qui êtes agrégé et docteur en histoire, professeur aux écoles militaires de Saint-Cyr, Coëtquidan, nous dire, rappeler simplement la traduction par Robert de Quitton sur, suite à la demande de l'abbé de Cluny, comment les choses se sont passées et quelle est cette commission dont on dit qu'il y avait parmi les membres de la commission un sarrasin.
Exactement.
Qui serait appelé lui-même Mohamed aussi.
Exactement. Nous sommes à peu près en 1142-1143 et l'abbé de Cluny, qui à l'époque est l'un des premiers personnages de la chrétienté, peut-être même avant le pape par son autorité, fait cette commande qui a pour but de comprendre la doctrine sarrasine et pour se tourner, voire attaquer, puisque dans la préface à cet ouvrage majeur, cette traduction en latin du Coran, Pierre le Vénérable dit « Je me tourne vers vous, agredior » en latin, et se tourner vers vous peut aussi être traduit par « je vous attaque », mais aussi simplement « j'essaie d'aller vers vous ». Donc il y a un problème de traduction, ne serait-ce que dans la manière dont il présente les choses. Cette traduction signifie-t-elle une agression, une attaque ou un centre d'intérêt ? Il est évident que le propos polémique n'est jamais très loin. Et donc Robert de Quitton, qui est un Anglais spécialiste d'astronomie, va mettre à peu près 2 ans à traduire en latin le Coran avec une équipe, puisque au Moyen-Âge, même si des noms l'emportent, des noms de traducteurs dominent les ouvrages, en général, en réalité, ils sont souvent à plusieurs. Ce qui est intéressant, c'est que quand, par exemple, on traduit de l'astronomie ou des mathématiques, il y a souvent un juif qui participe à l'équipe, hein, en tout cas en Andalousie. Là, on n'a aucune idée de la présence ou pas d'un juif qui pourrait servir de transfert, de médiateur linguistique. En tout cas, ils étaient plusieurs sous l'autorité de ce Robert de Quitton. Et il y avait très certainement donc ce fameux Mohamed, on ne sait pas très bien qui il était. C'est important qu'il y ait eu très certainement un musulman dans l'équipe, puisqu'il a dû donner des clés de lecture, sans doute des clés de lecture assez simples, une espèce de vulgate interprétative que les croyants en Andalous ou ailleurs se transmettaient, mais qui va permettre à Robert de Quitton d'éviter trop de contresens sur certaines traductions. Et donc Robert de Quitton aboutit à une traduction en latin de l'ensemble du Coran, ce qui était quand même pas une mince affaire. De toute évidence, il se trompe dans le nombre de sourates.
Il y en a 124.
124. Alors, moi, j'ai supposé que sur un certain nombre de sourates, il s'est trompé avec les hizbes. Donc, avec les sections,
ou les parties.
Exactement, les sections, les parties d'apprentissage par cœur. Mais à partir à peu près de la moitié du texte, il retrouve les sourates qui deviennent plus petites.
Donc, il se serait trompé pour les longues sourates.
Les longues sourates, exactement. Oui. Et donc, à quoi aboutit Robert de Quitton? Il aboutit à un texte qui, évidemment, bourré d'erreurs, bourré de contresens, mais aussi qui parfois sait saisir le sens du texte. Évidemment, sur le mot à mot, il se trompe très fréquemment, puisque le passer d'un corpus linguistique et sémantique arabo-musulman à un corpus latin, évidemment, les choses varient énormément. Mais globalement, une fois qu'on lit l'ensemble de son texte, on a quand même une perception assez juste de ce que pouvait être le Coran, même si dans le détail, il est très critiquable. Par exemple, on a l'impression qu'il, entre guillemets, il s'amuse à christianiser le vocabulaire. La continence pendant le mois de Ramadan est perçue en termes de chasteté monastique.
Et les bienfaits sont présentés comme une grâce.
Comme une grâce divine. Parfois, on a l'impression que les gestes des ablutions ont l'effet d'un baptême qui effacerait les peaux.
Purificatoire.
Et donc, évidemment, ça n'est pas gravissime sur l'ensemble du texte, mais on a l'impression qu'il le christianise. Alors, il y a deux interprétations. Soit il opère ses christianisations parce qu'il en est baigné, donc ça serait logique. Soit il essaie d'adapter le texte à la réalité que ses lecteurs connaissent, sans lesquels il aurait bien du mal ses lecteurs auraient bien du mal à comprendre. Par exemple, le fait que une répudiation ou un divorce ait valeur légale par des règles dotales, c'est absolument étranger au christianisme. Et donc, il l'adapte pour que ça puisse être compris. Et donc, ce premier Alcoran est extrêmement intéressant à cause de ça. Il y en a un deuxième, et je voudrais juste le mentionner, il est beaucoup moins connu. Il a été produit en 1210 par Marc de Tolède, qui lui est un chrétien mozarabe, et donc sa langue maternelle, c'est l'arabe d'Andalous, hein, qui est entre guillemets un dialecte par rapport à l'arabe classique. Et Marc de Tolède, lui, parce qu'il est imprégné, baigné de la langue arabe, et qu'il a appris la langue latine par la suite, eh bien, il fait le processus inverse. C'est-à-dire, il veut absolument suivre le mot à mot de la langue arabe de ce Coran. Et l'Alcoran en latin auquel il parvient, eh bien, tente régulièrement de respecter la rythmique coranique, la rythmique de la langue arabe, ce qui évidemment est un peu compliqué une fois passé en latin. Ce qui fait que une partie de ces mots, de ces phrases en latin sont soit peu compréhensibles,
soit arabisées,
et donc pour un clerc ou un moine latin ou pour un abbé comme l'abbé Pierre le Vénérable qui va lire l'Alcoran ou qui aurait pu l'avoir en main l'Alcoran de Marc de Tolède, ça devient un texte proprement incompréhensible, voire non pas ridicule, mais qui ne respecte pas le sens du mot latin, évidemment.
Alors, est-ce que c'est la traduction de Marc de Tolède ou celle de Robert de Quitton qui fait partie du corpus de Tolède ou de ce qu'on appelle
Exactement.
La collection tolétana.
Cette fameuse collection tolédane qui en fait n'a jamais vu Tolède, qui a sans doute été réalisée donc dans le nord de l'Espagne avec le fameux Coran, l'Alcoran de Robert de Quitton. Eh bien, c'est cette collection qui intègre le travail de Robert de Quitton qui aura un vrai succès avec plus d'une vingtaine de manuscrits. Alors que l'Alcoran de Marc de Tolède ne comporte que 3 manuscrits. Et c'est très important cette différence, parce que nous avons avec Robert de Quitton un texte qui est complètement acculturé aux mentalités européennes latines, qui aura un vrai succès, tandis que le texte qui tente le plus de respecter l'Alcoran, lui, n'a aucun succès. Et d'une certaine manière, on peut dire que l'acculturation par Robert de Quitton a plus d'efficacité que le respect de la culture d'origine par Marc de Tolède. Et on peut même aller plus loin en disant que moins vous acculturez, moins vous vous faites comprendre, et plus le texte est étranger et donc agressif, entre guillemets.
Oui, est-ce peut-être le fait d'avoir voulu respecter les assonances ou une certaine rythmique qui fait de cette traduction ce que d'aucuns diront plus tard un galimatia ou un salmigondi de mots incompréhensibles.
Exactement. Alors, le malheur de ces deux traductions, plutôt celle de Robert qui, elle, a eu un vrai succès, le malheur, c'est que le texte ne se lit pas tout seul. Et c'est le, entre guillemets, la chance et le malheur de ce texte, de cet Alcoran de Robert de Quétone, c'est que les auteurs, et sans doute Pierre le Vénérable lui-même, quand il a découvert cet Alcoran, qu'il l'a lu, l'a annoté. Alors, soit lui-même, soit son secrétaire ont annoté l'Alcoran de Robert de Quétone. Et les annotations sont explicitement extrêmement agressives. Par exemple, lorsque Pierre le Vénérable ou son secrétaire, il y a un doute là-dessus, lit certaines sourates, notamment lorsqu'elle parle d'Abraham, d'Ibrahim, eh bien, il se rend compte que l'Ibrahim du Coran n'est pas tout à fait l'Abraham de la Bible. Et donc, en marge, il va écrire une petite explication qui prend certainement conseil de la perception musulmane d'Abraham, transmise probablement par ce fameux Mohammed. Et à la fin de cette explication, qui cherche à donner au lecteur des clés de lecture sur la manière dont les musulmans perçoivent Abraham, eh bien, à la fin de l'explication, Pierre le Vénérable ou son secrétaire marque d'un trait rageur « Ecce fabula, c'est n'importe quoi » ou « ce sont des balivernes ». Et le problème majeur, c'est que ce texte, cet Alcoran, qui finalement, s'il avait été lu tel quel, aurait offert des clés de lecture extrêmement riches et nuancées sur l'islam, eh bien, tout lecteur qui au XIIIe, XIVe siècle le lit, en fait, lit forcément les annotations qui, elles, orientent considérablement sa lecture vers une lecture péjorative.
C'est ce qu'on dit un paratexte et non pas des liens hypertextes.
Exactement.
Et c'est peut-être ce qui a aussi motivé l'appellation du Coran comme l'ex-mahométanum pseudo-prophète ou l'ex... Saracenorum.
Ouais. Le mot lex en latin.
La loi, pas au sens
non, exactement.
Tel que nous le comprenons maintenant.
Mais le mot lex appliqué au Coran est intéressant et là encore n'est pas uniquement chargé négativement puisque la loi chrétienne est parfois, enfin, la doctrine chrétienne est parfois désignée en termes de loi. La loi rappelle forcément l'Empire romain, le droit romain, donc il y a des éléments positifs. Mais la loi rappelle aussi la loi juive. Et les chrétiens ont l'habitude au Moyen-Âge d'indiquer péjorativement la loi mosaïque, la loi juive, par le mot de lex. Donc le mot lex est chargé de connotations très variées, très multiples. Et le fait d'appliquer le mot loi à l'Alcoran indique qu'au XIIe siècle, on prend conscience que l'islam, qu'on n'appelle pas encore islam, peut être comparé au monde juif. Et donc, d'une certaine manière, il faut le pointer du doigt, mais il a une raison d'être dans les volontés divines. Dieu a voulu maintenir la loi juive à travers la présence des juifs. Et donc, si ce mot lex est employé pour l'islam, c'est donc qu'il y a une logique. Et cette logique, nos auteurs du XIIe et XIIIe siècle, y tentent désespérément de la trouver. Pourquoi Dieu a-t-il mis en place, a-t-il laissé faire cette nouvelle loi? Et c'est très déstabilisant pour un grand nombre d'auteurs chrétiens, à tel point que, à partir du XVe siècle, vous avez une multitude d'auteurs chrétiens européens qui prennent en compte, qui prennent la réalité telle qu'elle est. Dieu a voulu que subsiste cette loi saracène. Et donc, c'est donc qu'elle a un sens. Nous devons soit l'accepter, soit tenter d'aller vers eux pour les baptiser, pour les convertir. Et donc, au XVe siècle, on voit des auteurs qui, en général, sont un peu isolés quand même, hein, se tourner vers les pouvoirs musulmans, écrire au sultan ottoman, écrire aux émirs Hafsides en Tunisie, et tenter de leur dire « nous avons plein de points communs ». C'est presque naïf dans un contexte post-croisade, puisque les croisades sont terminées au milieu du XIIIe siècle. Mais donc on a des gens qui, forts de leurs études, de leur découverte de l'Alcoran, tentent d'identifier ce qu'il y a de commun. Et ce qu'il y a de commun, c'est évidemment le monothéisme, et c'est le rappel des prophètes, entre guillemets, et notamment de la présence de Jésus. Évidemment, ces tentatives louables tout en ayant toujours évidemment des arrière-pensées, échouent évidemment avec la conquête ottomane qui désormais brise ses velléités de tendre la main, si je puis dire.
Oui, mais à l'évocation des croisades, je ne résiste pas à penser à la rencontre entre saint François d'Assise et le sultan Mamelouk Malik al-Kamil en 1219. Et déjà à ce moment-là, on parlait de loi, de part et d'autre.
Exactement.
La législation ou la loi venue par le Christ et la législation ou la loi mahométane.
Et Marc de Tolède traduit d'ailleurs dans le Coran le mot « din » par le mot « lex », ce qui est assez bien trouvé, même si tout ne correspond pas exactement à l'appellation de loi.
Et quelqu'un de contemporain, même s'il n'est plus de ce monde, André Chouraki, traduit par « créance ». Donc, avec la notion de dette et que la création et que Dieu ayant créé les hommes, ils sont débiteurs auprès de lui. Mais en réalité, en termes, même de mon point de vue, et je le dis sous votre contrôle, l'acception digne, c'est aussi une loi ou une façon d'être, parce que le Coran, toujours en autoréférence, quand il parle dans l'histoire de Joseph, le vice-roi d'Égypte pouvait retenir l'un ou l'autre des frères de, surtout Benjamin, de Joseph, mais dans sa loi, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas, selon sa loi, le retenir. C'est pour ça qu'il y a eu le subterfuge de la petite écuelle pour qu'il puisse être retenu. Donc voilà, ça c'est un peu de philologie à propos de Dean, mais qui n'était même pas prévu pour c'est dire que la conversation avec vous, Olivier et Anne, nous mène à des ramifications, alors que notre tronc commun, c'est la réception du Coran, l'Al-Coran. Passons au milieu du XVIe siècle, on est en 1543, une date particulière qui a vu la mort de Copernic et l'édition de De Revolutionibus Orbium Celestium, mais en même temps la traduction et l'édition par Théodore Bibliander, du Coran aussi.
Et Bibliander est peut-être moins original qu'on ne le pense, puisque l'Al-Coran qu'il insère dans un énorme volume d'islamologie, on peut dire que son texte en 1543, c'est vraiment l'islamologie. Il va aller chercher une multitude de textes, d'ailleurs écrits souvent au XIIIe siècle, tous en latin évidemment, et il va les offrir aux lecteurs cultivés du XVIe siècle. Et la traduction du Coran qu'il insère dans son ouvrage, dans ce gigantesque volume, c'est celui de Robert de Ketton. Ça veut dire que pendant quasiment 4 siècles, l'Europe va connaître le Coran à travers cette traduction, certes fautive, mais intéressante toutefois, faite par Robert de Ketton. Alors, ce qui est aussi intéressant dans le projet de Bibliander, c'est que c'est un projet réformateur, au sens presque protestant du terme. Les protestants ont les mêmes problèmes, la même mésentente que les catholiques vis-à-vis de l'islam, mais ils veulent placer la lutte, puisque eux aussi sont en lutte doctrinale, ils veulent concevoir un armarium, une espèce d'armoire de polémique, mais la plus authentique, la plus sûre possible. Et donc c'est pour ça que Bibliander rassemble un maximum d'éléments qui vont servir dans la lutte contre l'islam. Mais on sent, à travers les textes qu'il récupère, qui d'ailleurs, une partie d'entre eux sont des textes entre guillemets catholiques, on sent que au-delà de la lutte contre l'islam, il y a aussi l'idée d'une lutte contre ce qui paraît irrationnel, ce qui paraît excessif, et le côté excessif ou irrationnel de l'islam tel que le perçoivent les protestants au XVIe siècle, en fait recoupe beaucoup le catholicisme. On a l'impression qu'à partir du XVIe siècle, la lutte contre l'islam va être le prétexte aussi bien pour les catholiques que pour les protestants d'argumenter contre l'autre, qui est devenu le premier ennemi au sein de l'Europe. Et donc, le musulman, sa foi, son texte, servent à démontrer les erreurs de l'autre européen. Les catholiques, par exemple, vont trouver dans l'Alcoran des éléments qui ressemblent étrangement au protestantisme, cette espèce d'insistance sur un monothéisme où Jésus n'aurait pas toute la place qu'on pourrait lui accorder. À l'inverse, les protestants vont voir dans la sourate Mariam notamment un rappel un peu inquiétant du catholicisme. Et donc chacun va trouver dans le Coran de quoi dénoncer l'autre. Et ce texte, ce volume polémique d'islamologie, va en fait se retrouver partout, dans toute l'Europe, quels que soient les pays. Ça sert partout.
Et notamment en Hollande.
En Hollande, où ça fait, excusez-moi l'expression, ça fait un pataquès, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce texte? Comment ça? Vous publiez, vous imprimez, et donc avec une large diffusion, vous imprimez l'Alcoran, le texte des Sarrasins, mais qu'est-ce que c'est que ça? Au moment même où ils nous menacent dans les Balkans, et donc les conseils urbains, les conseils de la bourgeoisie urbaine en Hollande se réunissent pour décider est-ce qu'on peut imprimer ça. À tel point aussi que il y a plusieurs épisodes en Hollande, mais aussi dans la vallée de la vallée du Rhin, où certaines presses à imprimer de cet Alcoran vont être confisquées. Alors heureusement, si je puis dire, certains réformateurs disent non, il faut absolument avoir sous les yeux le vrai texte des Sarrasins pour pouvoir polémiquer.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et pour cette seconde partie consacrée au Coran, seconde partie de l'émission avec le professeur Olivier Hahn, agrégé et docteur en histoire, professeur aux écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan, nous parlons de la réception du Coran en Europe, notamment via les traductions, mais aussi le rapport quand à la fois les intellectuels, mais aussi oui, ceux qui s'y intéressent. Si nous poursuivons comme ça sur la fresque historique, on arrive par la suite à André Duréer. On est en 1647, quelque chose comme ça, donc milieu du XVIIe siècle.
Alors avec André Duréer, la nouveauté, c'est la traduction en langue vernaculaire. Puisque jusqu'à présent, la connaissance de l'Alcoran, la connaissance de l'islamologie latine, se faisait évidemment par le vocabulaire latin, était donc réservé à une élite élite cléricale la plupart du temps, élite lettrée. Et à partir du XVIIe siècle, en revanche, on voit se multiplier les traductions en langue vernaculaire, avec notamment la traduction de Duréer. Ce qui est intéressant, c'est que Duréer, en fait, arrive à un point d'aboutissement. Ce point d'aboutissement, c'est quoi? C'est entre le XVIe et le XVIIe siècle, les Européens non cléricaux qui sont amenés à comprendre, à fréquenter l'islam, sont désormais de plus en plus nombreux. C'est la grande époque des capitulations européennes, ces ports francs où les navires européens ont le droit de stationner dans l'Empire ottoman. Donc vous avez désormais des diplomates, vous avez des marchands qui fréquentent la Berbérie, l'Afrique du Nord, qui fréquentent l'Empire ottoman, qui sont très bien accueillis dans l'Empire ottoman, très bien accueillis notamment pour leurs compétences techniques, pour les échanges marchands. Et donc ces gens-là sont amenés à apprendre sur place la langue arabe, la langue persane, la langue turque. Et le royaume qui est à la pointe à cette époque-là pour envoyer des, entre guillemets, des civils, des non-clercs, des laïcs dans, ces, dans les territoires musulmans, c'est la France, avec le royaume de France, et qui subventionne la formation de jeunes aristocrates. Ils sont pas très nombreux, ils sont à peu près 5 par an, à être envoyés dans les, en terre d'islam pour s'initier aux langues et pour devenir par la suite des ambassadeurs, des diplomates. Et ces gens-là, revenant en France à la fin de leur carrière de diplomate, créent des écoles, créent des cours de langue arabe, de langue persane en France. Et ils initient la bonne bourgeoisie française qui, le soir, n'ayant rien à faire ou qui a fini sa carrière ou qui sont des rentiers, et qui vont aller suivre des cours. Alors, malheureusement, ces cours de langue arabe à Paris, on en voit aussi à Rome, mais là, à Rome, c'est la papauté qui les gère. On en voit à Leyde, en Hollande, on en voit aussi à Cambridge et Oxford. Il y a une grande époque des cours d'arabe au XVIe siècle, et on voit, alors, on a du mal à trouver des raisons vraiment tout à fait convaincantes. Au milieu du XVIIe siècle, ces cours d'arabe progressivement s'effilochent. Par exemple, on a plusieurs personnages qui font des cours d'arabe à Paris au XVIIe siècle et il n'y a plus d'étudiants. Donc il y a une espèce d'absentéisme des étudiants qui peut-être qui s'explique par un moment un désintérêt. C'est ça qui est étonnant chez les Européens à travers l'histoire. On a des vagues d'intérêt qui se succèdent à une déliquescence de la connaissance de l'arabe.
Alors, que diriez-vous à ceux qui disent que André Durier soit ne connaissait pas suffisamment la langue arabe puisque sa traduction était aussi un peu défectueuse, soit il aurait été tendancieux puisqu'on est allé chercher le fameux verset, oui, qu'il ne faut surtout pas extraire hors contexte, le 256 de la sourate 2, « Nulle contrainte en la, oui, religion, la voie droite se distingue clairement de l'erreur », il ne le traduit pas comme ça.
Alors, il n'y a pas de règle absolue chez Durier, parce que certains versets qu'il aurait pu, dont il aurait pu souligner l'aspect, entre guillemets, sexuel ou luxurieux pour un chrétien, il n'insiste pas forcément, et des versets de guerre ne sont pas non plus systématiquement traduits à défaut, et à l'inverse, il insère un vocabulaire tout à fait français du XVIIe siècle. Par exemple, la masjid devient une église,
le masjid étant la mosquée, le lieu de la prosternation.
On voit aussi, ce qui est assez drôle, une patente, hein, le commandement de Dieu devient une patente, hein, comme si c'était une patente de la monarchie française. Donc, sur toutes ces traductions, et j'y insiste, je pense qu'on aurait un défaut d'orientation dans leur lecture si on n'y voyait que des éléments négatifs. Revoyons le travail, un travail colossal à chaque fois qui est fait. Il est clair que Durier reste français, au moins reste marqué par la fameuse querelle des anciens et des modernes sur la manière dont on lit, dont on écrit, dont on traduit. Et comme tout bon français du XVIIe siècle, on ne traduit pas des répétitions. La répétition n'a pas de sens, ou la répétition n'apporte pas de signification. Et donc, des sourates qui multiplient les répétitions pour rappeler la puissance de Dieu, rappeler sa miséricorde, eh bien, une fois que ça a été dit une fois, on ne va pas le répéter deux fois, ça ne sert à rien. Donc, évidemment, c'est un Coran tout à fait incomplet ou inconséquent pour un croyant.
Ou qui devient falot. Plus tard, il y aura un autre arabisant, Jean Gagné, qui était à Sainte-Geneviève de Paris, puis il ira à Oxford, lui aussi contribue à faire connaître le Coran. Et il y en a encore un autre qui est Ludovico Maracci.
Alors Ludovico Maracci, si je peux me permettre, on est dans le high level, on est dans le top de l'islamologie européenne. Maracci travaille au sein de la curie romaine. Il est lié à une institution qu'on appelle la De Propaganda Fide, l'institution pour la diffusion de la foi, qui a été formée au XVIIe siècle par l'Église, par la papauté, pour faire une propagande, hein, c'est le premier sens du mot, une diffusion de la foi chrétienne en passant par l'intelligence, en passant par la culture, en passant par les langues. Et donc la papauté subventionne très coûteusement des individus spécialisés dans la langue persane, la langue arabe, la langue turque, dont l'objectif c'est la conversion des musulmans. Et pour cela, il faut faire un gigantesque travail de traduction, d'écriture. Tout ça se fait en latin, ce qui prouve bien que la De Propaganda Fidei, Ludovico Marracci, travaille au nom de l'Église, et donc on passe par le latin. Et Ludovico Marracci va publier quasiment 4 à 5 volumes du Coran, mais en latin, comme d'habitude. La qualité de sa traduction est vraiment excellente, mais à un moment, en fait, en passant par une langue de type indo-européenne, il y a des progrès qu'on ne peut plus faire. C'est-à-dire que Marracci représente la dernière étape. Une fois qu'on a traduit, une fois que Marracci a traduit en latin le Coran, entre guillemets, on ne peut pas faire mieux. Ce qui prouve qu'à un moment, il faut passer par d'autres biais pour la compréhension. Mais ce qui est très nouveau chez Marracci, en dehors de la qualité de son texte latin, c'est la manière dont il va percevoir le texte. Autrefois, quand je veux comprendre le Coran, je vais ajouter des gloses marginales, comme Robert de Ketton, souvent agressives. Je vais parfois insérer au sein d'un verset que je traduis, je vais insérer une interprétation qui évidemment tord le texte. Mais ce qui est très nouveau avec Marracci, c'est que vous avez sur la même page, en haut de la page, le texte latin qui traduit le Coran. Vous avez ensuite des éléments d'exégèse et d'analyse qui sont directement traduits de tafsir, soit persan, soit turc.
Et notamment Suyuti et son maître, les deux Jalaluddin, comme on dit le Jalalayn, c'est-à-dire Jalaluddin Suyuti et son maître.
Exactement. Il est allé chercher et traduire des tafsirs sans les détourner. Et troisième partie.
Tafsir voulant dire commentaire, exégèse, et c'est pour nos amis auditeurs.
Bien sûr. Et la mise en textualisation, c'est surtout ça qui est important dans le tafsir, c'est la contextualisation linguistique et historique. Et troisième élément, troisième type d'écrit qu'on découvre sur la même page, le commentaire polémique. C'est-à-dire que sur la même page, vous découvrez le texte latin du Coran, vous découvrez le paratexte ou le métatexte, comment comprendre le texte, et enfin l'agressivité ou la polémique. C'est-à-dire que à partir de là, quelqu'un qui lit Marracci, il est capable d'identifier ce qui est de la polémique, de ce qui est du commentaire proprement dit. Ça veut dire que ces gens-là sont capables à un moment de dire « voilà ce qui relève de l'analyse entre guillemets objective et voilà ce qui relève de l'agression, de la croisade intellectuelle, si je puis dire. »
Ou de l'apologétique, chrétienne. On est à la fin du XVIIe siècle.
On est à la fin du XVIIe siècle. On voit très clairement…
1698, quelque chose comme ça. Exactement. De mémoire.
Et ce qui est fondamental dans le travail de Marracci, c'est la papauté est capable de passer à différents registres d'analyse et de perception. Ces différents éléments de registre sur la perception de l'islam s'accompagnent d'une politique et d'une diplomatie pontificale vis-à-vis de la Sublime Porte, vis-à-vis de l'Empire Ottoman, qui correspond exactement à ça. C'est-à-dire que, bien sûr, la Sublime Porte, c'est un ennemi de la chrétienté, mais c'est un acteur diplomatique. Et donc, on a une correspondance tout à fait courtoise entre la papauté et l'Empire ottoman. Alors, ce qui va progressivement faire changer les choses au sein de Rome, au sein de la papauté, et qui va faire perdre à Rome son statut de centre d'islamologie majeure de l'époque moderne, c'est que on voit très clairement que à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, ces grands esprits sont de moins en moins nombreux. Et que l'école d'apprentissage de l'arabe qui avait été créée par la papauté à Rome est progressivement prise en charge par des maronites. Et le fait que ce soit désormais des professeurs maronites qui fassent les cours et que leurs élèves soient d'ailleurs souvent eux-mêmes des chrétiens d'Orient et que l'islamologie pontificale soit entre guillemets aux mains des maronites, eh ben oriente considérablement la perception pontificale, puisque les maronites qui viennent à Rome, en fait, ont vécu évidemment dans ce qu'on appelle le Mont Liban, dans, entre guillemets, l'actuel Liban. Ils ont vécu en citoyens parfois de seconde zone, ce qui n'était pas toujours le cas en plus au XVIIIe siècle au Mont Liban. Et en fait, ils ont une revanche à prendre. Et malheureusement, lorsqu'ils deviennent professeurs à la De Propaganda Fide, ils transmettent à Rome et à la De Propaganda Fide toute la perception du chrétien d'Orient, de
l'islam. Une certaine aigreur.
Et donc, d'où aussi le fait que, en France, excusez-moi si je fais cette petite incise sur ce que nous apprend l'histoire pour aujourd'hui, le dialogue interreligieux en Europe, en France, doit toujours, je pense, être mené par des gens qui habitent en Europe, qui vivent les problématiques européennes, qui vivent dans la société européenne, et qu'il est toujours un petit peu délicat de nouer ce dialogue avec des gens qui vivent d'autres situations dans d'autres contextes qui sont absolument pas les mêmes.
Et une autre socialité, comme on dit. Et alors, à ce moment-là, on est dans une logique que les Sarrasins, les musulmans, peut-être qu'on commence à appeler les Mahométans.
Oui. Et puis les Turcs aussi.
Et les Turcs, avec grand T, synonyme de musulmans aussi. Sont-ils des hérétiques qu'il faut savoir rattraper ou dont il faut sauver l'âme? Ou le défi théologique d'une autre loi, au sens que nous avions évoqué tout à l'heure, demeure. Quelle est la perception à ce moment-là?
Alors, vous avez tout à fait raison. En fait, les Européens, je vais le dire de façon un peu négative,
apophatiques,
ont tourné en rond comme un hamster dans une roue pendant quasiment 5 ou 6 siècles. À essayer de déterminer si l'islam est un paganisme ou est une hérésie. Il y avait des éléments qu'on pouvait prendre dans l'Alcoran qui pouvaient prouver l'un ou l'autre. Et en fait, ils n'en sont jamais sortis. Ce qui va les en sortir, c'est à la fin du XIIIe siècle, ça n'est que le début du processus, c'est Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, en réinterprétant Aristote à l'aune de la doctrine chrétienne, va placer la religion, en tant que se relier à Dieu au sens latin du terme, la religion ne doit pas être classée comme une vertu religieuse. La religion n'est pas de la religion, entre guillemets, chez saint Thomas d'Aquin. La religion, c'est de la justice. Donc, ça n'est pas une vertu théologale, comme on dit, c'est-à-dire une vertu qui appartient à la croyance, mais qui appartient à la justice des hommes. Je suis religieux, je rends un culte à Dieu, c'est normal, ça n'est que justice. Et donc, en plaçant la religion dans une vertu humaine, avant d'être dans une vertu religieuse, saint Thomas d'Aquin prépare progressivement le fait que la religion va être isolée de la doctrine chrétienne pour devenir la vertu de l'homme qui est vraiment un homme, c'est-à-dire qui rend à Dieu ce qu'il doit être. Or, ou en ce sens, et cette interprétation va se généraliser à partir du 15e et du 16e siècle, les musulmans, qu'on puisse les appeler turcs, sarrasins, mahométans, ils rendent un culte à Dieu. Même si, évidemment, pour ces théologiens, ce culte est faux, mais ils rendent un culte à Dieu. Donc, ils pratiquent la justice. Et l'acceptation théologique, philosophique surtout, de l'islam en Europe, cette acceptation qui va être totale ou quasi totale au XVIIIe siècle, vient de ce fait, cette transformation de du positionnement de ce qu'est la religion dans les vertus, eh bien, dès lors que les musulmans rendent un culte à Dieu, ils pratiquent la justice.
Et est-ce que ça rentre dans l'économie générale du salut?
Eh oui, puisque depuis saint Thomas d'Aquin et après, surtout à partir du XVIIe siècle, personne ne peut être damné par ignorance. Si vous ne connaissez pas Dieu, enfin, si vous ne connaissez pas le Christ, vous ne pouvez pas être damné pour ne pas le connaître.
C'est la sotériologie, exactement, la science d'être du salut, propre à la Kinate. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le professeur Olivier Hahn dans cette seconde partie consacrée à l'Alcoran, dont nous parlons de l'Alcoran selon l'appellation des auteurs latins jusqu'au XIXe siècle et de la réception du Coran en Europe et surtout ses différentes traductions. Olivier Hahn est agrégé docteur en histoire, professeur aux écoles militaires de Saint-Cyr, Coëtquidan. Olivier Hahn, on parlera peut-être d'autres traducteurs, et il y en a un qui est incontournable, c'est Claude-Étienne Savary.
Oui.
On est dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est son œuvre, sa traduction, qui servira à Napoléon quand oui. il, à la campagne oui. de Bonaparte, dans son bateau, il lira l'Alcoran
oui.
dans la traduction de Savary. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ?
Eh bien, d'une certaine manière, même si elle n'est accompagnée que de quelques notes de bas de page qui quand même permettent une meilleure compréhension, une meilleure contextualisation du livre, il y a un progrès linguistique dans cette traduction par rapport à Durier qui est évidente. Ce qui est aussi très avantageux, si je puis dire, c'est sa diffusion. Avec Savary, l'homme bien né, l'homme de culture, l'homme qui a reçu une éducation, doit avoir dans sa bibliothèque...
Enfin, l'honnête homme.
L'honnête homme, c'est ça. Il doit avoir dans sa bibliothèque Savary. Et ça prouve aussi à quel point le Coran, finalement, je le dis un peu par provocation, est un élément de la culture européenne. Alors évidemment... je ne sonde pas les intentions des lecteurs ni des traducteurs, mais il est évident que, vous voyez, dès le 12e et de façon totale à partir du 16e et du 18e siècle, le Coran fait partie des bibliothèques. Alors, évidemment, c'est un Coran qui ne respecte pas, on l'a déjà dit, le sens ni la forme, pas toujours en tout cas, mais il est désormais l'un des éléments majeurs de cette culture européenne. Et il est aussi du coup l'un des éléments de langage maintenant. Éléments de langage pour les hommes politiques, éléments de langage pour les conquérants. Et cette image de Napoléon feuilletant, lisant le Coran de Savary lors de l'expédition d'Égypte, c'est une mise en scène de soi-même qui montre le conquérant, l'homme d'État, qui est passé au-delà des querelles religieuses, qui a su, à travers le message des Lumières, s'affranchir du carcan du catholicisme, aborder un déisme qui est capable d'embrasser les fils de France, marqués par le catholicisme, le protestantisme, et les fils de la Nouvelle-France, hein, que sera, quelques années en tout cas, l'Égypte. Il y a un positionnement, on peut appeler ça une vraie propagande politique, Napoléon se positionne vraiment en héritier des Lumières, ces Lumières qui ont complètement lu et intégré le Coran comme justement cet ouvrage qui, loin des inepties de la doctrine chrétienne, de la casuistique catholique, donne à l'homme, citoyen, au citoyen libéré, donne des axes d'un monothéisme rationnel, d'un monothéisme qui accepte le politique. Et il est évident que là, il y a vraiment un effet de propagande du côté de Napoléon.
Ce qu'il avait poussé à dire à ses interlocuteurs, ouléma, les cheikhs égyptiens, que j'ai trouvé dans votre texte sacré des éléments qui nous rapprochent, et je suis venu ici, vous écoutez, c'est l'histoire
Exactement.
De cette propagande politique. Si on revient à Voltaire, qui a dit que le Coran est une rhapsodie sans ordre, ni art, ni liaison, parce qu'il aurait été déstabilisé par la non-cohérence oui. du texte, par ses effets chiasmatiques, oui. ces chiasmes qu'il n'a pas pu peut-être percevoir. Il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas une introduction, un développement, non. une conclusion non. dans le Coran. Quand bien même il serait présenté dans l'ordre chronologique,
oui.
il n'y a pas ça non plus. Et c'est ce qui l'avait déstabilisé.
Oui. Alors, chez Voltaire, Les choses sont doubles parce que il est capable dans certains articles de valider, de soutenir justement la prédication prophétique, de montrer toute sa richesse, de voir dans les appels à une obéissance divine dans le Coran, il est capable de souligner tout l'intérêt de cette foi qui s'exprime, et en même temps dans d'autres articles il souligne ce qui lui paraît aberrant. Alors, toutefois, dans l'un de ses articles, alors je ne me souviens plus lequel, mais il dit quand même, effectivement, exactement ce que vous avez évoqué, c'est une langue qu'on ne comprend pas, c'est un salmigondi, mais ceux qui connaissent la langue arabe disent que c'est très bien écrit. C'est-à-dire que il est capable quand même, rarement, mais il est capable quand même de dire, bon, je ne connais pas la langue arabe, mais ceux qui connaissent disent qu'il y a une grande puissance évocatrice. Et cette puissance évocatrice du texte coranique, les hommes des Lumières la cherchent. Pourquoi ils la cherchent? Parce que dans leur désir déiste, dans leur désir de lutter contre l'infâme, hein, qui est d'abord l'Église catholique, la doctrine catholique et aussi les liens du catholicisme avec les monarchies absolues, les hommes des Lumières ne sont pas du tout contre la pulsion spirituelle. Or, la pulsion spirituelle telle qu'ils la lisent dans le Coran leur paraît saine. Et donc, ces gens-là, dans leur texte, valident la pulsion spirituelle coranique, mais pas, entre guillemets, ce qu'ils perçoivent comme des à côté. Les questions d'héritage, les questions dotales, les questions maritales, tout ça, ça leur paraît complètement abscon. Mais l'authentique pulsion spirituelle musulmane, ils en parlent très souvent.
Ils y voient une théosophie.
Une théosophie, et d'une certaine manière, ça donnera l'être suprême. Finalement, le Dieu du Coran, c'est déjà en germe l'être suprême. Alors, évidemment, tout cela n'est que manipulation des textes, hein. Faut pas être dupe. Pourquoi je dis qu'il faut pas être dupe? Parce que très souvent, on voit dans certains digestes qu'on peut distribuer à la sortie de certaines mosquées ou même dans les pays arabes, on dit, bah voyez, même les grands Européens disent que le Coran est superbe, Goethe a dit que, Lamartine a dit que. Effectivement, il y a des textes très beaux de tous ces poètes ou de Voltaire ou de Rousseau, mais méfions-nous un peu, parce que quand vous prenez ces quelques passages extrêmement amélioratifs vis-à-vis du prophète ou du Coran, vous lisez quelques pages plus loin, les choses sont quand même plus nuancées.
On cite toujours Alphonse de Lamartine, oui, quand il parle de la grandeur du dessein, la petitesse des moyens et l'immensité du résultat sont la marque du génie, qui ose comparer Mahomet à un humain. Oui. Il est moins qu'un dieu, mais plus qu'un homme, c'est, oui, un prophète. Et de nos jours, on se gausse de cette citation pour dire qu'Alphonse de Lamartine était de fait, ayant reconnu la prophétie mohammedienne, oui, et l'unicité de Dieu, musulman, sans l'avoir peut-être fait savoir. Pour le temps qui nous reste, Olivier Anne, parlons d'un des derniers traducteurs avant l'ère contemporaine ou moderne, c'est Kazimierski.
Oui, oui.
Né en 1840, milieu du 19e siècle. C'est un Polonais qui s'intéresse aux langues véhiculaires de la pensée islamique, le persan et l'arabe, le turc aussi. Et sa traduction fait autorité jusqu'au milieu du 20e siècle,
ouais,
ouais, presque même de nos jours. Et d'aucuns aussi disent qu'elle était par moments tendancieuse, dans un passage où, pour les versets dits martiaux, belligènes, violents ou de guerre, où il est dit à propos des mécréants, tuez-les où que vous les trouviez, il a ajouté, faites-en un carnage. Alors que le texte coranique originel ne parle pas de ce carnage.
Ouais, ouais. On voit là, en fait, avec Kazimierski, mais finalement aussi déjà avec Marachi et Savary, que, en fait, on est arrivé au bout des capacités linguistiques et sémantiques des langues indo-européennes. Et à partir de la fin du 19e siècle, il n'y a plus, entre guillemets, que deux voies de compréhension qui illustrent finalement Kazimierski. C'est soit vous offrez le texte avec une traduction, sachant que de toute façon, les sous-entendus et le métatexte ou le paratexte n'est pas accessible tel quel, soit vous faites un autre choix qui est celui de l'interprétation permanente. Et l'interprétation permanente qui passerait soit par des crochets, des parenthèses à l'intérieur du texte, ou par des notes de bas de page considérables. Et finalement, sans être trop caricatural, on peut dire que on est aujourd'hui, depuis un siècle finalement, dans cette situation-là. Vous voyez des Corans, ce qu'on peut acheter en librairie, qui sont sur cette espèce d'arête, de crête, où soit sur l'un des pans, on vous offre un texte qui se comprendrait naturellement de lui-même avec une bonne traduction honnête, ce qui ne veut pas dire grand-chose, je crois que les auditeurs l'ont très certainement ressenti. Il n'y a pas de traduction à peu près honnête ou objective, ça n'existe absolument pas. Vous êtes toujours en train de chercher le mot, vous êtes tout le temps en train d'essayer de le comprendre et donc de lui donner une signification. Donc, soit le texte se comprendrait de lui-même, soit au contraire, il faudrait rajouter tout ce qui n'est pas dit. Mais selon quels critères ? Et entre guillemets, le malheur, c'est que aujourd'hui, notamment chez certains groupes de prédicateurs, trop souvent, on dit voilà, lis le Coran, tout est là et tout se comprend par lui-même. Oui. Bah, si c'était si simple.
Les choses ne sont pas simples du tout. Peut-être une toute dernière question que je vous pose. C'est étonnant cette arabophilie qui prévalait au 19e siècle, par exemple, et qui est insoupçonnée de nos jours dans le tintamarre que nous connaissons maintenant.
Exactement. Arabophilie qui, certes, reste à un niveau des élites intellectuelles et bourgeoises, mais une arabophilie qui, toutefois, est indissociable de l'appel pour les lettres hébraïques. C'est peut-être l'un des défauts de l'arabophilie depuis le 18e siècle et 19e siècle, c'est que finalement les universitaires, les lettrés veulent retourner aux sources de la Bible, donc évidemment le grec ancien, l'hébreu, l'araméen, et l'arabe fait pour ces gens-là, fait partie des langues majeures si on veut comprendre notre legs. Le legs européen ne se comprend pas sans les langues sémitiques, et notamment l'arabe. Alors oui, il y a quelque chose de très orienté dans cette arabophilie, hein, le retour aux sources de l'Europe, mais n'est-ce pas assez beau d'une certaine manière d'imaginer, de penser que l'Europe se pense comme héritière du monde arabe, entre guillemets.
Merci infiniment, merci beaucoup Olivier Hahn.
Merci.
C'était Question d'Islam. Chers amis auditeurs, vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Sylvia Favre. La prise de son était assurée aujourd'hui par Manon Houssin et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin.